Agnieszka Bruyère, vice-présidente IBM Cloud and Cognitive Software pour IBM France.
À chaque fois, nous sommes ici sur Ready for IT, salon dédié aujourd'hui, nouveau salon dédié à la transformation digitale. Quelle est votre vision de la transformation digitale aujourd'hui par rapport à l'expérience que vous avez vis-à-vis de vos clients?
Donc tout d'abord, je veux citer notre présidente, Ginny Rometty, qui s'est prononcée, qui a donné un discours lors de Vivatech. Elle a dit que ces dernières années, la transformation des entreprises était beaucoup drivé par le facteur extérieur, ça veut dire la demande des clients pour des applications mobiles, pour le site web, pour les nouveaux services. Donc elle était beaucoup drivée par les éléments externes. Elle dit que maintenant les sociétés qui ont survécu à cette époque de rupture, hein, avec beaucoup de nouveaux arrivants sur le marché, a besoin de se repenser et plutôt capitaliser sur son patrimoine applicatif, son patrimoine client, son patrimoine de données, pour se réinventer et créer une réelle valeur pour les clients, de nouveaux services, mais cette fois-ci vraiment drivée par ce qui constitue le capital de l'entreprise. Donc tout le patrimoine applicatif et le patrimoine des données. Donc ça, c'est le premier constat. Je pense que c'est vraiment un changement qui est radical dans la façon dont on a approché la transformation digitale ces dernières années. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion sur la refonte des systèmes d'information, d'une part, et d'autre part, la réflexion sur une meilleure utilisation des données dans l'entreprise. Pas les données à l'extérieur, mais c'est les données qui se trouvent dans l'entreprise. Donc, tout d'abord, dans la transformation des patrimoines applicatifs, une tendance majeure qu'on voit, c'est transformation des applications monolithiques en microservices. Donc ça, c'est vraiment une tendance majeure. Je trouve que ça marque vraiment une rupture parce que souvent, sur les projets IT, on était sur la valeur informatique, coût, éventuellement l'efficacité opérationnelle, point de vue informatique. Là, ce qui est intéressant dans cette transformation drivée par les microservices, c'est qu'on délivre réellement une valeur métier. Ça veut dire quoi en transformant, en découpant une application monolithique en plusieurs morceaux qui sont des microservices, on apporte à la fois l'agilité parce qu'on peut modifier un microservice à notre guise, on apporte la rapidité de la mise en place des nouvelles fonctions, des modifications des fonctions existantes, de fiabilisation de la production parce que désormais s'il y a un problème sur un microservice, le reste de l'application peut fonctionner. Donc c'est une réelle valeur pour l'entreprise qui est supportée point de vue technologique par la containerisation et l'orchestration de la containerisation avec les open source, donc IBM naturellement avec Kubernetes. Et je pense que l'année dernière, on a atteint un niveau de maturité nécessaire sur la partie l'orchestration de Kubernetes, qui est juste essentiel pour le bon fonctionnement de la production. Parce que bien sûr, containers, ça date déjà d'il y a quelques années. Mais ce qui était essentiel, c'est arriver à avoir cette orchestration pour que ceci puisse être fiable en production informatique et continuer à rendre les services de façon avec la continuité de services nécessaires au métier. Donc ça, c'est un point très important. Donc microservices, une tendance vraiment majeure qui lie à la fois les technologies et le besoin de métier, d'agilité et des innovations. Parce que quand on se transforme en microservices, on s'ouvre aussi la possibilité d'utiliser de l'intelligence artificielle, faire l'appel à la blockchain, faire interagir des projets de IoT avec les applications, ce qu'on appelle back-end ou legacy. Donc cette containerisation nous apporte cette ouverture et cette possibilité de communiquer, soit en mode API ou un autre mode, avec les applications qui amènent ces innovations. Donc ces innovations sont vraiment essentielles. Donc je vois ça vraiment comme un changement majeur et presque une révolution, parce que c'est vraiment, on lie les métiers et l'informatique.
Je suis parfaitement sur la démarche. Cependant, la démarche de microservices, est-ce que ce n'est pas aussi rajouter une surcouche par rapport à l'ensemble de la couche infrastructure et logicielle qui peut aussi complexifier le travail du DSI? Et en matière de sécurité, ça étend également le périmètre.
une question très intéressante. Alors, je veux vous dire que ça fait plusieurs années que je suis dans l'informatique. Donc, naturellement, on empile les couches. Donc, virtualisation système avant et ensuite la couche de containerisation. Donc, la question est très pertinente. Moi, je peux vous dire ce qui se passe dans l'entreprise aujourd'hui, c'est que on reste quand même avec le fait qu'on garde l'ensemble de ces couches. On garde l'ensemble de ces couches parce qu'en fait, on a beaucoup de mal à renoncer à ce qui est du passé. Mais comme je discute avec les experts et les gens qui sont passionnés par la technologie, finalement, on arrive au constat, pourquoi pas faire la containerisation sans passer par la couche de virtualisation système. Voilà. Mais ça, c'est vraiment des discussions d'experts. Et aujourd'hui, ce que j'observe dans les entreprises, ce n'est pas ce qui se passe. Parce que finalement, on a un système établi de virtualisation système et on ajoute la couche de containerisation. Donc, potentiellement, c'est effectivement une couche supplémentaire. Donc, on fait une analyse, quels sont les gains et quels sont finalement les risques associés à cette couche supplémentaire. Ce qui est quand même intéressant dans la containerisation et les outils comme IBM, Cloud Private ou d'OpenShift, c'est que c'est non seulement l'orchestration des containers, mais ils embarquent en automatique tout un tas d'outils qui sont indispensables à la production, comme gestion de la configuration, comme la gestion, la mise à jour des versions, comme le monitoring, etc. Donc, ça apporte des couches d'automatisation qui sont très intéressantes point de vue production informatique. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que finalement, la containerisation, c'est de plus ou moins, c'est profiter des technologies qu'on a mis en place dans les clouds natifs pour utiliser dans les environnements aussi privés. Parce que le container Kubernetes, l'origine de cette technologie, c'est quand même cloud. Donc finalement, je trouve qu'on assiste vraiment à un moment crucial où on donne la possibilité aux entreprises qui ont fait le choix de rester dans leur data center, dans une configuration on-prem pour tout un tas de raisons, entre autres sécurité, conformité et autres, d'utiliser les apports, les avantages d'un cloud public avec l'utilisation des technologies qui sont nativement utilisées dans le cloud public.
Alors, justement, je comprends bien la démarche et je vous suis parfaitement là-dessus. Cependant, quand on regarde, une des tendances aujourd'hui dans les discours, c'est de dire on bascule tout dans le cloud. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous apportez la possibilité de maintenir l'existant, de rester sur des infrastructures on-premise, ce qui est quand même un petit retour en arrière par rapport à cette tendance qui a émergé ces dernières années. Je ne suis pas persuadé d'ailleurs que la tendance soit la bonne. Mais qu'est-ce que vous apportez aux entreprises en la matière et surtout aux DSI qui finalement, si je comprends bien, vous leur dites attention, jusqu'à présent vous disiez vous basculez tout, maintenant c'est terminé, on va regarder plus précisément quelles applications, etc. Et on ne va pas tout basculer, mais on a des solutions pour faire comme si c'était du cloud public sans en être. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. Alors, on s'est aperçu, on a fait une étude, qu'il n'y avait que 20% de workload applicatifs qui étaient dans les clouds. Donc, même si effectivement, tout un tas d'acteurs peuvent plaider pour une tendance full cloud, comme vous avez mentionné, la réalité n'est pas celle-ci. Et quand on regarde les raisons de cette réalité, ils sont multiples, bien sûr, le poids des legacy, qui nécessite d'être transformé avant de pouvoir être porté dans le cloud. Mais il y a aussi les problématiques de conformité et de sécurité qui sont des fois un peu challenging, on va dire, dans l'environnement de cloud public. Il y a des choix de société qui ne souhaitent pas tout simplement aller dans le cloud pour s'assurer qu'ils ont la maîtrise totale de leur système d'information. C'est un choix. Donc, je dirais que, et d'ailleurs, c'était aussi cité lors des VivaTech, nous, on voit 40-60 ou dans un sens ou dans l'autre, en fonction de la force de conformité, de la sécurité pour le secteur en question. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, pour qu'un projet cloud prenne son sens point de vue fonctionnel, de toute façon, il faut passer par cette transformation des applications. Donc c'est pour ça que j'ai dit, voilà, vous utilisez des moyens des technologies pour pouvoir profiter des technologies de cloud tout en faisant le choix des implémentations on-prem. Et ce que je voudrais ajouter que dans cette stratégie, du coup, parce qu'on se retrouve avec le système d'information qui est multi-sourcing, je veux dire en anglais. Ça veut dire on-prem, les clouds, mais souvent plusieurs clouds. Donc la vraie problématique, c'est comment, point de vue DSI, on assure une gestion unifiée et en conformité par rapport à des règles de sécurité de toutes ces infrastructures qui sont multiples. Donc c'est pour ça, encore une fois, nous on a fait le choix de Kubernetes étant le socle technique qui nous permet de déployer les technologies comme multi-cloud manager, hein, qui est finalement une console unifiée qui va permettre de gérer des environnements containerisés on-prem, mais aussi dans les clouds IBM et chez les autres clouders, hein, de façon unifiée, et gérer la sécurité également de façon unifiée. Je veux juste compléter avec l'aspect sécurité, parce que vous m'avez dit, bon, avant, on avait tout un tas de mesures pour assurer la sécurité de notre VM. Quid de la sécurité des containers? Donc, bien sûr, ça laisse la place aux innovations. Nous, on travaille avec plusieurs entreprises qui font des innovations autour de, cette fois-ci, plus la sécurité de VM, mais la sécurité du container, avec les scans des containers, avec la vulnérabilité des containers. Kubernetes assure aussi qu'il y a une persistance de la configuration des containers. Et nous, dans nos outils, on fournit également la gestion des vulnérabilités et la gestion des configurations, ainsi que le déploiement des politiques de sécurité. Donc, c'est sûr qu'encore une fois, bon, ce n'est pas la première, il faut repenser son paradigme de sécurité, parce que quand on passe en mode container, la sécurité désormais doit se faire au niveau de container et plus VM, puisque les échanges se font entre les containers. Voilà.
Alors, pour épuiser ce sujet, juste une dernière question, si vous me permettez, qui sera peut-être un peu plus incisive, hein, je me permets. Quand on regarde bien historiquement, IBM a été le premier à parler de cloud computing. C'était quand même il y a plus de 10 ans. Hein. En tous les cas, par notre vision, nous, franco-françaises, on a vu l'expression apparaître chez IBM en priorité. Donc vous avez été un des précurseurs en la matière. Maintenant, quand on regarde bien, est-ce qu'aujourd'hui, cette nouvelle stratégie de dire les conteneurs, la conteneurisation, etc., cette nouvelle stratégie de dire un cloud adapté aux besoins de chacun, finalement, voire aux besoins de chaque métier ou chaque solution, est-ce que ce n'est pas un moyen pour vous de rattraper un retard que vous avez pris alors que vous étiez le premier, et on a l'impression que vous avez avancé un peu moins vite qu'un certain nombre de vos concurrents, et alors qu'aujourd'hui vous reprenez position sur ce marché, est-ce que ce n'est pas une bonne vision?
Alors effectivement, quand on voit les premiers clients qui ont adapté cloud, et pour la typologie de workload, c'est pas des workloads qui étaient entre guillemets dans ce qu'on estimait les périmètres d'IBM et périmètres de responsabilité d'IBM. C'est souvent des petits développements à la marge, voire des instances pour les études de développement, d'intégration éventuellement. Donc nous, en fait, notre stratégie, c'est effectivement c'est dire qu'il faut qu'on valorise l'expérience, notre connaissance sur la production de nos clients, qui est finalement une production qui est on-prem. Et d'où cette stratégie de dire on va définir un socle technologique commun avec les clouds et avec les environnements de nos clients pour lui permettre de faire les choix libres on-prem ou dans les clouds, chez IBM, mais c'est possible aussi chez les autres, parce que comme vous dites, il faut qu'on s'est aperçu, et ça peut paraître bizarre, c'est que la clé, il est vraiment dans les open source et dans la liberté qu'on offre aux clients de faire le choix de modèle le plus adapté ou d'un cloud provider le plus adapté par rapport à tout un tas de choix contractuels, financiers et autres. Donc c'est pour ça, effectivement, typiquement notre stratégie aujourd'hui, c'est de dire j'accompagne la transformation de l'entreprise, des legacy, les 80% qui sont toujours là, qui nécessitent la rénovation, et je donne la liberté de choix de modèle le plus approprié compte tenu du contexte, avec les outils qui vont permettre à faire une gestion unifiée et efficace, quel que soit l'environnement.